Bonjour, à mon tour de vous saluer, chacun d'entre vous. Magnifique cantique pour introduire notre sujet, puisque vous l'avez peut-être remarqué sur les feuilles de la semaine. J'ai envie de vous parler de la consolation. Cette idée de vous parler de ce sujet m'est venue à deux reprises. D'abord, lors de l'enterrement de Madame Mille, notre doyenne, qui est décédée il y a à peu près dont l'enterrement était il y a 8 jours. Elle avait 99 ans, presque, à quelques jours près. Et j'ai dit lors de ce service que Dieu seul pouvait nous consoler, parce que lui seul connaît la profondeur de notre douleur. Et puis, dimanche dernier, Philippe, je ne l'aperçois pas parmi nous aujourd'hui, nous a parlé de toutes ces années d'oppression, de difficultés, de dépression qu'il a eues et dont il venait juste de sortir de façon assez extraordinaire. Alors je crois que tous, nous avons besoin d'être consolés, d'être soulagés, lorsque nous passons par des épreuves, par des moments de souffrance terribles. Et je crois que cela arrive dans le parcours d'une vie, plus ou moins, selon les périodes et selon les personnes. Et nous avons besoin aussi de l'aide de Dieu pour cela, avant tout. Alors j'aimerais reprendre le livre de Job. J'avais apporté une introduction, une vue d'ensemble de ce livre il y a quelque temps. Et je vous invite à lire maintenant dans le livre de Job, au chapitre 3, les versets 1 à 12. Job, comme vous le savez, est un homme qui a tout perdu, qui a été dans une détresse terrible. Et c'est l'expérience, l'histoire de cet homme que nous raconte ce livre de Job. Donc Job, au chapitre 3, nous lisons les 12 premiers versets. Après cela, c'est-à-dire après que 3 de ses amis sont venus pour le visiter et que, ne pouvant pas parler, ils se sont tus pendant une semaine, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Job prit la parole et dit « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit « Un enfant mâle est conçu. Ce jour, qu'il soit donc ténèbre, que Dieu n'en ait pas souci de là-haut, et que la lumière ne brille plus sur lui, que les ténèbres et l'ombre de la mort le réclament, que des nuées demeurent au-dessus de lui, et que de sombres événements l'épouvantent. Cette nuit, que l'obscurité s'en empare, qu'elle ne se réjouisse point parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le compte des mois. Oui, que cette nuit soit stérile, qu'il n'y ait pas en elle de cri de joie, qu'elle soit exécrée par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent réveiller le Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle espère la lumière sans qu'elle vienne, et qu'elle ne voit pas les paupières de l'aurore. Car elle n'a pas fermé le ventre qui me conçut, ni caché la peine à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dès les entrailles de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de son ventre? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des seins pour m'allaiter ? Nous arrêterons là notre lecture, mais on aurait pu continuer jusqu'à la fin de ce chapitre. Ce n'est pas gai. Job trouve très difficile de parler de sa douleur. Alors, comment bien parler de Dieu au cœur de la souffrance ? Nous qui voulons être des consolateurs auprès de ceux qui passent par des moments terribles. Ici, Job parle de lui. sous la forme d'un monologue. Alors que ses amis, lorsqu'ils vont prendre la parole, vont plutôt parler de Dieu. Alors on pourrait se dire, mais c'est bien de parler de Dieu à celui qui souffre. Job va parler de lui, et je pense qu'en premier lieu, il est bien, il est bon d'écouter celui qui parle de sa douleur. Et c'est très difficile d'écouter, parce qu'on a toujours tendance, et c'est un peu l'expérience que j'ai faite, quand je parle un peu d'un souci ou d'une grande difficulté, presque immédiatement, la personne que j'ai en face de moi me dit « Ah, mais moi aussi, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. » Et puis, la conversation est maintenant branchée sur ce qu'a vécu cette personne, et pas sur ce que moi, j'essaie de dire maladroitement. Job parle de lui-même, de sa souffrance. Il exprime avec ses mots, avec son expérience. Et c'est pourquoi ses amis de Job, ainsi que Job, n'entreront jamais en dialogue. Alors est-il possible de bien parler de Dieu tant qu'on refuse d'abord d'entendre celui qui souffre parler de lui-même et d'un mal profond qui le ronge? Dès cette situation, la douleur de Job rend toute parole impossible. Chapitre 2, verset 12, c'est juste deux versets au-dessus. Personne ne lui disait une parole. 2:12, je vais le retrouver. Non, c'est même la fin du verset 13, pardon. Personne ne lui disant une parole, car il voyait que sa douleur était fort grande. Un pédopsychiatre célèbre, Bettelheim, a dit ceci: « Ce dont on ne peut parler, c'est aussi ce qu'on ne peut apaiser. » Et c'est vrai que la douleur est parfois si grande qu'on ne peut même pas l'exprimer. Alors, à première lecture, on a l'impression que Job ne fait que maudire son existence. Mais on peut déceler derrière ces paroles autodestructrice des éléments de son expérience réelle. Et j'aimerais relever quelques versets. D'abord au verset 3, « Périsse le jour où je suis né ». Il veut dire par là « Je ne sais plus ce que je suis ». On dit parfois, maladroitement je crois, en essayant de faire de l'humour, quelqu'un qui est décédé, c'est peut-être un peu trivial, mais je vais quand même le dire. Quelqu'un qui est décédé, il a avalé son bulletin de naissance. En fait, Job ici est dans une situation où il aimerait ne pas être né et il ne sait plus quel jour il est né, comme si cela ne devait plus compter dans sa vie. Et ce jour-là, dit-il au verset 4, qu'il soit ténèbres, c'est-à-dire qu'il est dans le noir. Il ne voit plus aucune lumière. Il n'y a aucun sens à sa vie. Verset 5, que les ténèbres et l'ombre de la mort le réclament le jour de sa naissance. C'est-à-dire qu'il est en proie à des forces de mal auxquelles il est incapable de résister. Il désire la mort, pas parce qu'il ne veut plus vivre, mais parce qu'il veut échapper à la souffrance qui devient extrême, terrible. Et je sais qu'il y a des gens qui se suicident, non pas parce qu'ils en ont marre de la vie, mais parce qu'ils ont une souffrance telle qu'ils n'en peuvent plus. Et si on continue cette litanie, on peut la résumer ainsi: je suis en si grande souffrance qu'en plein jour je suis dans le noir, j'ai perdu tous mes repères, je suis totalement seul. Ce qui est impossible pour les autres, l'obscurité pendant le jour, c'est mon quotidien. Je ne sais plus quel jour on est. Il n'y a plus de continuité dans le flux de ma vie. Je n'entrevois aucune issue. L'avenir est en miettes. Voilà l'état dans lequel se trouve Job au moment où ses amis le rencontrent. État que l'on peut apparenter à une profonde dépression, un burn-out, c'est le mot que Philippe a utilisé dimanche dernier, à une souffrance insupportable. Or, Job était quelqu'un de spirituellement parlant de bien, quelqu'un qui craignait le Seigneur, quelqu'un qui avait une relation avec Dieu, qui le servait. Ce n'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Comme cela arrive aussi que quelques-uns d'entre nous qui connaissent Dieu peuvent passer par ce genre de dépression au plus profond de leur être. Alors comment ses amis vont-ils réagir? Ou plutôt, comment Job va-t-il recevoir leur consolation? Car ce qui importe dans une consolation, c'est de savoir si elle a atteint son but, qui est celui de consoler. Et parfois, il arrive que la consolation fasse plus de mal que de bien. Alors, mon deuxième point, c'est la difficulté, voire l'impossibilité de consoler. Chapitre 16, verset 2, mais je vous le lis. Job dit à ses amis, et c'est peut-être la liberté qu'il a de dire les choses à ses amis qui lui permet de dire cela, « Vous êtes tous des consolateurs pénibles. » Ça, c'est la Bible à la colombe que j'ai sous les yeux. La Bible du semeur dit « Vous êtes tous de bien piètres consolateurs. » Et la TOB dit « En fait, de consolateurs, vous êtes tous désolants. » Je crois que les temps n'ont pas trop changé depuis l'époque de Job. Alors voyons un peu les différents textes où Job va utiliser le mot « consoler ». Non pas le mot « consolateur », mais le verbe « consoler ». À 5 fois, il l'utilise à la voix active, c'est-à-dire que ce sont les autres qui le consolent, et une fois, la dernière, à la voix passive, c'est-à-dire « je suis consolé ». Mais on verra ces versets. D'abord, chapitre 2, verset 11, « Il, ses amis, se concertent pour aller le plaindre et le consoler. » On pourrait se dire le résultat, échec total. Chapitre 7, verset 13, Job dit « Quand je dis, mon lit me consolera, ma couche calmera ma plainte, alors tu me terrifies par des songes. » Combien c'est vrai. Quand on est fatigué, oppressé, on a besoin de dormir, mais on ne trouve pas le sommeil. Mais le sommeil permet d'oublier. Mais alors qu'on essaie d'oublier dans le sommeil, des rêves ou même des cauchemars viennent nous hanter. Et c'est terrible. C'est terrible. Je me souviens quand j'ai perdu Renée, ma femme, il y a quelques années, je faisais des cauchemars où je la voyais revenir de voyage. Alors c'était magnifique, c'était très bien. Et puis tout de suite après, je me réveillais. Et le dernier cauchemar que j'ai fait, et là après cela, j'ai demandé à Dieu de m'en délivrer complètement, c'était Renée qui était ressuscitée des morts. Et nous montions dans notre voiture pour venir ici au culte. Et je me disais dans la voiture, mais comment je vais faire pour leur dire qu'elle est ressuscitée? Et à ce moment-là, je me suis réveillé. Et c'était horrible, c'était terrible. La vie inconsciente se fait entendre par la voix des rêves ou des cauchemars. Triste consolation. Et puis ensuite, au chapitre 21, au verset 34, littéralement, « Comment vous me consolez en réponse futile ?» Ses amis sont incapables de faire face à la souffrance de Job. Et puis au chapitre 29 et au verset 25, Job dit, rappelle un peu la période où il allait bien, où il était le bienfaiteur de l'humanité. Il s'occupait peut-être d'une épicerie sociale. Il était le riche qui honoré, faisait de bonnes actions qui se voient. Alors il dit, je choisissais d'aller avec eux, les pauvres. Je m'asseyais à leur tête, comme celui qui console les affligés. En réalité, la consolation profite à celui qui console. Et puis le dernier texte. Chapitre 42, verset 11. Tous ses frères, toutes ses sœurs Et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent vers lui et mangèrent avec lui dans sa maison. Ça, c'est après qu'il a retrouvé ses biens et qu'il est de nouveau dans une situation où tout va bien. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui et lui donnèrent chacun un késita, c'est une pièce d'argent, et un anneau d'or. C'est le dernier texte où le verbe consoler est à la voix active. Alors, curieusement, alors que tout va bien, que Job est, comme on peut dire, réhabilité dans sa vie d'autrefois, ils lui rappellent, ils ont besoin de le consoler encore. Comme quoi, même quand tout va bien, la tristesse, la difficulté, ça marque encore. Et ils lui offrent une pièce de monnaie et un anneau d'or, dérisoire compensation. C'est comme l'argent des assurances, bien utile en cas de pépin. Et heureusement qu'elles sont là. Je pense que David et Anne peuvent en parler. Mais l'argent ne peut jamais alléger la peine due à la perte de la santé ou des êtres chers qui nous ont quittés. C'est une aide appréciable, bien entendu, mais qui ne répond pas aux besoins profonds de celui qui est passé par un grand malheur. Si un être cher est assassiné, toutes les assurances possibles, inimaginables, ne pourront jamais la remplacer. Alors mon troisième point, tiré du livre de Job, c'est que seul Dieu console. Et au chapitre 42, verset 6, nous lisons ceci. Job répondit à Dieu, « Je me rétracte et je suis consolé. » Alors dans votre traduction, vous avez sans doute « Je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Mais une petite note de la Bible d'études, Nouvelle Bible Second, dit ceci, « Le verbe est habituellement traduit par « regretter ». Regretter, se repentir. Autre traduction, je me console ou je suis consolé. Et un ancien directeur d'école biblique, éminent personnage parmi les évangéliques, Jules Marcel Nicole, décédé vers 90 ans et jusqu'à son dernier souffle, il donnait des cours de grec à ses étudiants sur son lit d'hôpital. Écrit ceci dans son commentaire sur Job, le terme hébreu rendu par « je me repens » pourrait aussi se traduire « je suis consolé ». Étymologiquement, le verbe signifie « respirer fortement », ce qui peut s'appliquer à un soupir de détresse, voilà, quelque chose comme ça, hein, ou à un soupir de soulagement. Voilà, hein, c'est deux soupirs complètement différents, qui veut dire la consolation. Et c'est ici la seule mention de ce verbe à la forme passive, je suis consolé. Et pour l'hébreu, quand on ne dit pas le sujet, généralement c'est Dieu qu'on ne me nomme pas. Donc je suis consolé par qui ? Je suis consolé par Dieu. Alors j'aime cette traduction qui ne se trouve pas dans nos traductions habituelles, mais j'en tire la conclusion que si nous ne pouvons pas consoler, Dieu lui peut consoler. Et c'est mon dernier point, nous sommes quand même appelés à consoler, dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3-4, on voit que Dieu console d'abord, et je lis dans la traduction œcuménique de la Bible, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Il nous console dans toutes nos détresses pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse par la consolation que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Le mot « consolation » ici revient à plusieurs reprises et il nous dit deux choses. Premièrement, Dieu nous console toujours dans toutes nos détresses. Je crois que c'est important de l'assimiler. Parce que c'est au prix de lui que dans une détresse épouvantable, on peut trouver la consolation. Et puis il nous dit aussi quelque chose qui est assez encourageant pour nous, qui peut nous consoler. Ce n'est que par la consolation de Dieu, celle que nous recevons de Dieu, que nous pouvons consoler ceux qui sont dans la détresse. Alors c'est vrai que quand on est passé par un chemin difficile, on peut mieux comprendre ceux qui y passent à leur tour et peut-être les aider, mais ce n'est pas ce que dit l'apôtre. Il ne dit pas ceux qui sont passés par des moments difficiles peuvent consoler les autres, non. Il dit que ceux qui ont goûté la consolation de Dieu sont plus à même de consoler les autres. Et on a quelques témoignages sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Onésiphore, voilà un joli prénom si vous êtes en quête d'un prénom pour votre enfant prochainement. Onésiphore, c'est un prénom biblique, reçoit ce témoignage de la part de l'apôtre Paul. Il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Voilà un témoignage fort de Timothée 1,16. Un autre prénom, Tychique. Aujourd'hui, il y en a tellement de bizarres, pourquoi pas celui-là. Tychique, compagnon de Paul, est envoyé par Paul à Colosse pour qu'il console vos cœurs. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3, un texte que j'aime beaucoup parce qu'il dit « Celui qui prophétise ». Et pour moi, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. En ce moment, j'espère que je parle de la part de Dieu, donc je prophétise. « Celui qui prophétise, dit Paul, parle aux hommes, le genre humain, les édifie, c'est-à-dire les construit, les exhorte, les encourage, les console, les réconforte. » Dieu nous a donné des frères et des sœurs pour nous réconforter, pour nous consoler. Mais je dirais pas n'importe quel frère et pas n'importe quelle sœur. Je crois qu'il s'agit là d'un don. Et on peut recevoir un don pour une grande période, mais on peut aussi recevoir un don, même sans le savoir, momentanément. Je crois que parfois, dans nos prières, sans nous en rendre compte, nous consolons, nous encourageons tel et tel frère parce que notre parole répond exactement, sans que nous le sachions, aux besoins de cette personne et Dieu l'utilise pour le consoler. Attention aux maladresses qui font mal. Romains 12, 6, nous avons des dons différents. Et au verset 7 et au verset 8, il dit que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, celui qui console à la consolation. Alors j'utilise là le mot consoler, qui n'est peut-être pas forcément, encore une fois, le mot que vous avez dans votre Bible, mais il s'en rapproche, parce que le verbe qui est utilisé veut dire être appelé auprès de quelqu'un, peut être traduit par le mot avocat, hein, c'est ça, être appelé auprès de quelqu'un, pour l'aider dans sa situation. Si on a un avocat, c'est parce que nous, on ne peut pas se défendre, et l'avocat, lui, connaît ce qu'il faut pour nous défendre. Cela veut dire aussi consoler, ça veut dire réconforter, et ça veut dire encourager. Oui, Dieu nous envoie consoler ceux qui pleurent, mais attention, ce n'est que par lui, par son esprit, que nous pourrons être de bons consolateurs. Et d'ailleurs, Jésus, dans Jean 14, 15 et 16, utilise à plusieurs reprises un mot pour nous parler du Saint-Esprit qui viendra le remplacer, Paraclétos, qui est traduit parfois, parce qu'il est très riche ce mot, donc difficile à traduire par un seul mot, par le mot paraclé. Voilà, c'est un mot qui n'existe pas en français, mais qui est tiré du mot grec. Et dans nos Bibles, il est parfois traduit par le mot « consolateur ». Je conclus. Comme les amis de Job, nous sommes souvent maladroits, très maladroits dans notre consolation. Nous pouvons même faire plus de tort que de bien. Que savons-nous de la souffrance de celui que nous sommes censés consoler? Comment ces mots peuvent-ils décrire ce qu'il vit au plus profond de lui-même? Mais Dieu est le vrai consolateur, car lui seul connaît nos afflictions et nos besoins au plus profond de notre cœur. Nous ne savons pas, mais lui, il sait. Dieu sait que nous pouvons compter sur lui. Dieu sait que par quel chemin nous sommes en train de passer. Alors, quel privilège d'avoir le Seigneur qui nous console, mais d'avoir aussi des frères et des sœurs qu'il nous envoie pour nous consoler. Amen.